Depuis le début de la guerre en Iran, tous les projecteurs sont braqués sur le détroit d'Ormuz, au risque de faire oublier d'autres détroits très importants de la planète. Aujourd'hui, on fait un focus sur deux de ces détroits, des points très chauds qui se trouvent en Asie.
Oui, les détroits de Malacca et de Taïwan, ils sont au cœur de cette zone indo-pacifique, là où se concentre désormais l'essentiel de la dynamique mondiale. En cas de blocage de ces détroits, et c'est toute la planète qui vacille.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Salut Annalisa.
Salut Mathieu, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver. Tu m'as quitté une semaine, t'as vu combien...
Ça m'a manqué cet ordre du monde, je suis trop content d'être là.
Combien ça change en une semaine. Il faut vraiment que je reste ici.
Exactement. Et en plus, on va parler d'un sujet vraiment passionnant, tu le disais, parce que c'est vrai qu'on est tous focalisés sur Ormuz, au point d'en oublier presque des endroits. On les appelle les choke points, ces goulets d'étranglement maritimes qui, s'ils sont bloqués, toute la planète tremble. Toi, tu veux nous parler d'un des principaux, peut-être le plus important d'entre tous de ces choke points, c'est Malacca.
Oui, Malacca, pourquoi je t'en parle? Parce que le ministre des Affaires étrangères iranien était en Chine cette semaine. Les deux pays se parlent évidemment, ils essayent de trouver une solution, une sortie du conflit. La Chine, elle essaye de convaincre les Iraniens de rouvrir ce détroit d'Ormuz. Pourquoi en réalité? Parce que la Chine est très inquiète aussi par rapport au détroit de Malacca. Alors Malacca, pour le situer, c'est cette voie absolument cruciale qui relie l'océan Indien à la mer de Chine. Et c'est une voie qui est absolument vitale pour la Chine parce que trois quarts de ses importations de pétrole passent par là. C'est un détroit qui s'étend sur 900 km à peu près. Et donc c'est un peu le pont entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est. Donc c'est vraiment
c'est un peu son artère fémorale, quoi. C'est vraiment le sang qui vient, enfin le pétrole qui vient irriguer tout le corps chinois, quoi,
passe par là. C'est une voie maritime absolument essentielle. Il y a plus de 100 000 navires qui passent par an. C'était 100 000 navires en 2025. Et 95 000 en 2024. Donc tu vois qu'il y a énormément de navires et en plus que ça augmente. Alors pourquoi la Chine, elle est si inquiète par rapport au détroit de Malacca? Il y a plusieurs raisons. On va commencer tout simplement par des raisons géographiques. En fait, le détroit est très, très étroit, comme le nom l'indique. Donc il y a un vrai risque de congestion, de bouchons, tout simplement.
Je crois qu'il y a même un endroit, on appelle ça le passage de Phillips, le canal Phillips, côté de Singapour, où le détroit ne fait que 2 ou 3
kilomètres. C'est ça, c'est moins de 3
kilomètres. Ah, c'est ça, moins de 3 kilomètres.
Effectivement,
on passe 100 000 navires par an, quoi.
C'est ça, il faut faire attention à la manœuvre.
Et c'est ce qui fait tourner la machine économique chinoise, en plus, quoi. C'est fou.
Et puis, il y a une deuxième raison qui inquiète beaucoup la Chine, c'est que Malacca est partagé entre la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande. Et si on a appris une chose de tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, c'est que les États qui contrôlent un de ces choke points, comme tu dis, ont un pouvoir de coercition extraordinaire sur les autres, à tel point qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'un possible péage à Malacca. Évidemment, ça changerait la donne pour la Chine qui exporte et importe énormément. Et puis, tout simplement, parce que n'importe quelle puissance hostile à la Chine, lire les États-Unis, évidemment, pourraient aller titiller la Chine sur ce détroit en créant des problèmes de navigation, des problèmes logistiques. Et évidemment, ça serait très, très dommageable pour la Chine. Donc, en fait, Pékin a un scénario noir en tête. C'est le cauchemar, le pire cauchemar pour Pékin, d'avoir des tensions simultanées à Malacca et à Ormuz. Alors ça serait catastrophique pour le commerce chinois.
C'est ça, donc il faut vraiment avoir en tête que les États-Unis ou n'importe quel rival de la Chine peut potentiellement avoir la main sur une vanne stratégique, qui est la vanne de ce canal de Phillips, de ce détroit de Malacca. On ferme la vanne, et là, tout s'arrête. La Chine ne respire plus, quoi. Donc il faut diversifier absolument. Oui. T'en parles, et c'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une véritable obsession pour la Chine, ce détroit de Malacca. Ça date pas là d'Ormuz et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ils ont identifié le problème depuis très longtemps.
Oui, le dilemme de Malacca, c'est comme ça qu'il l'appelle l'ancien président chinois Hu Jintao, qui en avait parlé pour la première fois. Donc ça remonte vraiment. La Chine, comme d'habitude, prévoit beaucoup, a un regard beaucoup plus long par rapport à nous sur l'actualité, sur la géographie, sur la géostratégie. Et donc, il y a ce dilemme théorisé depuis des décennies, c'est que la Chine a une croissance très rapide, très puissante, donc elle a des gros besoins en énergie, sauf que la principale voie d'acheminement de cette énergie est vulnérable à mille facteurs, comme on l'a dit, géographique, géopolitique, géostratégique. Et donc, il faut en même temps essayer de réduire sa dépendance, et en même temps bah, se rendre compte que la Chine ne peut pas faire sans toute l'énergie qui arrive du détroit de Malacca.
Et là-dessus, j'ai découvert un truc qui marque vraiment les esprits, je trouve, c'est que jusqu'en 1993, la Chine, elle était autosuffisante. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin d'importer plus d'énergie. Enfin, elle était autosuffisante parce que c'était l'époque où la Chine était encore rurale, etc. Et donc, cette histoire du goulet d'étranglement et du pétrole dont elle a besoin par Malacca, c'est aussi l'histoire du fol essor économique de la Chine depuis les années 90, entrée à l'OMC, industrialisation, etc., usine du monde. C'est cette histoire-là, en fait, qu'il y a derrière ton canal de Panama. Et alors, justement...
De Malacca.
De Panama, qu'est-ce que je raconte?
Derrière, quoi.
Oh là là. Mais je suis parti, voilà. Et alors, est-ce qu'elle a des sources alternatives, des routes alternatives, justement, la Chine?
Il y en a certaines. Tu sais, comme l'Iran qui arrive à exporter son pétrole, même maintenant que les États-Unis bloquent le détroit d'Ormuz, la Chine a aussi des routes alternatives. Il y a le corridor économique entre la Chine et le Pakistan. On en a pas mal parlé dans ce podcast. Il y a les oléoducs entre la Birmanie, le Myanmar et la Chine. Il y a la route de la soie polaire. Cette
la route arctique.
Passe par le nord, exactement. Avec la Russie, donc il y a pas mal de solutions quand même, mais elles sont toutes insuffisantes. Et alors, il y en a une qui est très intéressante, c'est un projet thaïlandais, dont la Thaïlande en parle depuis des années et des années, mais là, ça revient en force, ce débat dans l'actualité thaïlandaise. C'est un projet de pont terrestre qui est proposé par la Thaïlande. Donc, en fait, ça relierait le port de Chumphon et le port de Ranang, excusez-moi pour ma prononciation thaïlandaise sans doute défaillante. Mais ouais. Voilà, en tout cas, c'est un pont terrestre, c'est un corridor multimodal qui aurait de la route et du rail cumulé. Et ça serait 90 km, hein, parce que la Thaïlande, à ce point-là, à ce moment-là, c'est vers le centre de la Thaïlande, là.
D'accord.
Où le pays se serre en devenant une péninsule. Donc, à cet endroit-là, la Thaïlande est très étroite. Hein. C'est vraiment une langue de terre de 90 km. Et ça serait en effet une possibilité de contourner ce détroit de Malacca. Ah, ça ouais. Diminuerait les coûts logistiques entre 10 et 15%. Et la construction, si elle commençait maintenant en 2026, elle irait au moins jusqu'en 2039.
C'est passionnant voilà, ce que tu nous montres là, et en plus ça fait écho à ce qu'on voit en ce moment. On se rend compte que tout le monde essaye de trouver des routes plus sécurisées par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Là, je pense à une route, j'ai plus son nom en tête, mais on en avait parlé, tu sais, l'Inde qui veut traverser tout le Moyen-Orient avec des voies multimodales pour éviter de passer par Suez, par Hormuz, etc. Donc je coupe tout le Moyen-Orient. Je fais terre, mer, hop, et ensuite je relie l'Europe, je passe par le port d'Haïfa en Israël aussi, et je gagne du temps et j'évite les canals, les endroits vraiment très chauds de la planète. Quoi.
Le problème dans tout ça, c'est non seulement effectivement le temps, hein, là on parle par exemple de 2039, c'est dans 13 ans, mais c'est aussi le coût. Là on parle de plus de 30 milliards de dollars, évidemment c'est pas anodin du tout pour un pays comme la Thaïlande. Alors est-ce que peut-être qu'à terme... il y aura des investissements étrangers, pourquoi pas la Chine, puisque c'est la Chine finalement qui en profiterait. Mais tu vois, évidemment, il y a un coût immense, donc ce ne sont pas des décisions qui se prennent du jour au lendemain. Et même si elle était prise, cette décision, bah, ça prendrait au moins une petite quinzaine d'années.
Bon, en tout cas, on voit les blocages de ces détroits stratégiques. C'est ça qui fait que la Chine, elle s'implique quand même si on l'entend moins, elle est quand même fortement impliquée dans les discussions diplomatiques inflammables qu'il y a en ce moment au Moyen-Orient. Hein.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que la Chine a tout intérêt à ce que les États-Unis soient engagés dans le bourbier iranien, hein, finalement, dans ce terrain qui est si compliqué. Il y avait cette une de The Economist en début du mois dernier, oui, début du mois d'avril, qui disait « N'arrête jamais ton ennemi quand il est en train de faire une erreur, de commettre une erreur stratégique. »
Ouais.
Bah, là, on est un peu dans ce contexte-là. Et en même temps, la Chine a tout intérêt à ce que le conflit s'arrête. Pas pour arranger les États-Unis, mais parce qu'il y a une dimension énergétique. On a beaucoup dit que la Chine a énormément de réserves de pétrole.
Elle peut tenir 6 mois, je crois. Là.
Qu'elle a moins souffert par rapport à ses voisins asiatiques. Et en même temps, bah, les réserves s'écoulent petit à petit. Donc il y a tout simplement une question de temps. Je vous renvoie par ailleurs au podcast qu'on a enregistré la semaine dernière. Avec Adèle Bakawan.
Passionnant.
Effectivement, qui m'accompagnait la semaine dernière sur le sujet du temps qui décide tout dans le conflit. Il y a la dimension commerciale. Tu sais que la Chine... Et évidemment très tournée vers le commerce, c'est un peu l'axe principal de sa politique étrangère. Donc la Chine a intérêt à un monde apaisé du point de vue commercial et du trafic maritime purement commercial. Et puis il y a un avantage géopolitique aussi. Si la Chine arrive à mettre un terme au conflit, en tout cas à mettre sa patte dans la résolution du conflit, c'est qu'elle arrive à se poser comme une puissance stable, qui arrive à résoudre même les conflits les plus durs. Et tu sais, on est au Moyen-Orient et surtout parmi les monarchies du Golfe, dans une situation très instable par rapport aux États-Unis. Les monarchies du Golfe commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on a encore intérêt à faire allégeance aux États-Unis qui n'ont pas su nous protéger alors qu'on en avait besoin? Donc c'est pour ça que la Chine négocie beaucoup en ce moment. Elle a intérêt à ce que le conflit se termine. Après, il ne faut pas demander à Xi Jinping de faire du Donald Trump. C'est-à-dire que c'est pas le même.
C'est plus feutré, c'est un autre style.
Exact.
C'est voilà, on parle moins, mais quand on parle, on se fait écouter. Et peut-être aussi dernier point là-dessus, Annalisa. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé, mais il y a un objectif politique au cœur de la gouvernance de Xi Jinping. Il l'a annoncé lui-même. La Chine va devenir, doit devenir le leader mondial de la transition énergétique. Et pour ça, il a créé depuis 20 ans tout un maillage mondial pour sécuriser ses chaînes d'approvisionnement avec des mines de nickel en Indonésie, partout dans le monde, en Amérique latine, etc. Et tout ça, bah, il faut que les routes soient sécurisées pour pouvoir atteindre cet objectif d'être le leader mondial de la transition énergétique. Et la moindre route coupée, eh ben, ça bride cet objectif politique au cœur de la politique de Xi Jinping.
Oui, il y a plusieurs axes. En effet, c'est vrai qu'il y a la question commerciale purement intéressée. Et puis, il y a aussi une question de pôle, non, qui sont en train de se créer. Les États-Unis deviennent imprévisibles, deviennent... un changeant avec une politique qui n'est pas toujours prévisible. La Chine, elle se pose comme un pays totalement prévisible. On va rester sur la Chine parce que toi, tu nous parles du détroit de Taïwan. Donc, on reste dans la même région.
Et l'Indo-Pacifique, hein, c'est the place to be. Parce que le détroit de Taïwan, pourquoi? Parce que c'est l'une des routes maritimes aussi les plus empruntées au monde. C'est aussi une des zones les plus géopolitiques de la planète. À son point, là, pour ceux qui nous regardent sur le podcast vidéo, à son point le plus étroit, seulement 130 kilomètres, sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan. Hein. Et dans ce détroit, tu as 20% du commerce maritime mondial qui transite chaque année. C'est à peu près, en valeur de marchandises, l'équivalent de 80% du PIB français chaque année qui passe par ce détroit de Taïwan. C'est à peu près 2500 milliards de dollars. Donc c'est vraiment
la mesure de l'importance de ce détroit.
Exactement, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as, juste à côté de ce détroit en ce moment, c'est un point très chaud, un exercice militaire XXL qui est sur le point de se terminer, là, en Indo-Pacifique. Il s'appelle Balikatan. Il est organisé par les États-Unis et les Philippines. C'est le plus grand exercice militaire jamais organisé par ces deux puissances. Ils ont l'habitude de le faire chaque année. Il a débuté donc le 20 avril. Là, il mobilise en ce moment 17 000 soldats, dont 10 000 soldats américains. Ça, c'est un signal intéressant parce qu'on a l'impression qu'avec cette armada spectaculaire qui est au Moyen-Orient, eh ben, en fait, Donald Trump, il garde quand même quelques réserves. On le voit à travers ces 10 000 soldats qui s'entraînent en ce moment dans ce détroit de Taïwan. Balikatan, dans le langage local philippin, ça veut dire épaule contre épaule, entre alliés. Exactement. Et sur place, en fait, tu as, pour cet exercice XXL, plus de 20 pays alliés qui y participent, beaucoup en tant qu'observateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pour la première fois la France, le Japon et le Canada qui, eux, y participent pleinement. Et donc là, pendant cet exercice, qu'est-ce qu'on y fait? On tire à balles réelles, on simule une invasion de plage à l'aide de roquettes, de mortiers, de drones. Il y a aussi 1300 marines américains qui étaient basés à Hawaï, qui ont été dépêchés pour y participer. Tu as leur commandant américain qui a expliqué qu'il était prêt à répondre à toute crise dans un théâtre d'opérations critique et complexe, dit-il. Ce qu'il faut lire à travers ces mots, bien sûr, ce qu'il a en tête, ce commandant des Marines, c'est la menace extrême d'une attaque de l'armée populaire de libération, l'armée de Xi Jinping, sur cette île de Taïwan. Et d'ailleurs, et ça c'est un autre point très intéressant sur cet exercice de Balikatan, c'est que pour la première fois, tu as eu des simulations américaines de frappes maritimes sur une petite île philippine qui s'appelle l'île de Itbayat et qui est située à seulement 155 kilomètres de Taïwan. Et ça, c'est un signal géopolitique hyper important.
Et alors, il y a eu aussi pour la première fois des tirs japonais à l'étranger et ça a énormément fâché la Chine. les Chinois, ils sont furieux après ces...
Ça aussi, c'est un signal géopolitique très fort, parce qu'on sait que c'est même inscrit dans sa constitution depuis MacArthur, le Japon. Hein, c'est normalement un pays pacifiste. Donc, ce signal-là, c'est attention, les Japonais disent attention, on est prêt aussi à intervenir à l'extérieur. Là, la Chine, elle ne décolère pas. Et un autre signal intéressant, c'est que lors du premier jour de cet exercice Balikatan américano-philippin, eh bien, la Chine a dépêché son porte-avions chinois, le Liaoning, qui a traversé ce fameux détroit de Taïwan. Donc ça, c'est une démonstration de force pour rappeler au monde entier ce principe politique et géopolitique de une seule Chine, donc qui comprend bien sûr aux yeux de Xi Jinping l'île de Taïwan. Et d'ailleurs, ce principe d'une seule Chine, il est inscrit en noir et blanc dans toutes les relations diplomatiques et stratégiques que la Chine a nouées avec des pays dans le monde entier. Hein, donc il y a plus de 170 pays où il y a des relations diplomatiques écrites, et là-dessus, ces pays s'engagent à reconnaître le principe d'une seule Chine, et Taïwan garde...
Exactement.
Et donc ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que tu as les états-majors du monde entier qui anticipent en ce moment une éventuelle opération militaire de Xi Jinping sur l'île de Taïwan avant 2030. Hein.
On parle de 2027 souvent ?
Oui, il y avait cette date de 2027 parce que ça coïncide avec le centenaire de l'armée populaire de libération, et on sait que lors de plusieurs discours, Xi Jinping a demandé à son armée d'être prête pour 2027. Et tu as aussi en parallèle, il faut regarder aussi comment est en train de se muscler l'armée chinoise. Ça aussi, c'est assez spectaculaire. Le budget militaire chinois, il a bondi de plus de 55%. C'est désormais la deuxième puissance militaire mondiale derrière les États-Unis. Tu as 2 millions de soldats chinois qui sont actifs. Il y a eu une réorganisation très profonde de l'armée chinoise. La priorité en ce moment de l'armée chinoise, elle est donnée aux troupes amphibies et aéroportées. Ça aussi, c'est un signal intéressant à regarder, parce que c'est tout ce qui pourrait être décisif en cas d'une opération sur Taïwan. On en avait aussi parlé, c'était un site d'information spécialisée qui nous disait que les spécialistes russes avaient entraîné les forces spéciales chinoises à s'infiltrer discrètement dans les îles avec des parachutes qu'utilisent les Russes et qu'ils ont utilisés notamment sur le théâtre ukrainien, qui s'appelle les parachutes d'Al-Nolyot, et qui sont capables de porter des charges lourdes. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça peut valider en fait une hypothèse selon laquelle les rivages de Taïwan, la topographie en fait est trop montagneuse sur les rivages, et donc c'est compliqué d'intervenir par la mer, et donc...
En fait, l'invasion amphibie est trop compliquée, et donc ils envisagent d'arriver
Et donc une option serait d'arriver par les airs. Et donc on a des forces spéciales russes qui auraient entraîné les forces spéciales chinoises avec des équipements qui permettent, en cas de début pour commencer une attaque, d'arriver par les airs.
De se parachuter avec tout le matériel militaire dont ils ont besoin.
Exactement. Et puis dernier signal en ce moment autour de Taïwan et ce détroit, c'est qu'on entend de plus en plus parler de chalutiers chinois qui sont trafiqués, et qui permettent de couper, qui ont des coupe-câbles, et qui permettent de couper les câbles sous-marins jusqu'à 4000 mètres, les câbles de télécommunication, de data, qui permettent de relier Taïwan au reste du monde. Donc ça, c'est aussi un signal qui est assez inquiétant, et d'ailleurs, c'est pour ça que Taïwan essaye de multiplier les accords avec des constellations de satellites pour essayer de transférer ces data vers le ciel pour moins dépendre des fonds sous-marins.
Là encore, on a parlé de Malacca, on a parlé du détroit de Taïwan, même le détroit d'Ormuz. En fait, tout ce qui est intéressant, c'est que tous ces détroits représentent un problème, un point d'achoppement depuis des décennies. Et là, c'est le cas aussi pour Taïwan.
C'est ça, exactement. Et Taïwan, en fait, en cas, si jamais il y avait une attaque et un blocage de ce détroit, le choc, un peu comme Malacca, serait cataclysmique. Il faut voir que Taïwan concentre plus de 90% de la production mondiale des semi-conducteurs dits de pointe. C'est ceux qui sont indispensables pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc c'est tout ça qui serait gelé en cas d'attaque sur Taïwan. Voilà. Donc on voulait vous en parler de ces détroits de Malacca et de Taïwan. On prend un peu de temps, mais c'est vraiment des points hyper chauds. Faut surtout pas que le détroit d'Ormuz nous fasse oublier ce qui est en train de se passer passer là-bas, d'autant que cette zone Indo-Pacifique, on sait qu'elle est au cœur, c'est aussi une priorité des États-Unis depuis Barack Obama. Hein. Tu sais, ils ont publié la revue de défense, la revue stratégique de défense, oui, début janvier, annuelle, et là, en fait, en top list, tu as l'Indo-Pacifique. Hein. C'est là où se concentre toute la dynamique économique mondiale et là où il y a le plus d'accords de défense qui se multiplient depuis des années.
D'accord, donc là on a passé un peu de temps dans les eaux, c'est le temps de revenir sur la terre ferme,
ah oui,
pour nos radars.
Hein. Ouais. Bon, on termine avec le petit radar. Tu surveilles quoi toi cette semaine? Raconte-moi.
Écoute, moi je surveille le Royaume-Uni parce que aujourd'hui, donc on enregistre ce podcast jeudi, donc c'est aujourd'hui pour nous, il y aura des élections locales. Les électeurs gallois et les écossais, ils renouvellent leur parlement et les anglais, ils élisent plus de 5000 élus locaux. Donc voilà, on s'attend à avoir un énorme revers pour Keir Starmer. Pour l'instant, c'est ce que disent les sondages. Lui, il a lancé un appel aux électeurs. Hein. Il leur a dit qu'il faut choisir l'unité plutôt que la division. Évidemment, il parle de ne pas choisir le parti de Nigel Farage, mais de choisir plutôt les labouristes. En réalité, j'ai vu dans la presse britannique que cet appel est plutôt dirigé aux membres de son propre parti, donc aux membres du parti travailliste, parce qu'il y a beaucoup de rivaux internes, Keir Starmer, qui sont déjà en train de se préparer pour lui piquer sa place si jamais il perd. On sait que Keir Starmer a été vraiment en difficulté ces dernières semaines avec son affaire Mandelson, avec Donald Trump qui l'a malmené. Il a eu vraiment beaucoup
Mandelson
de...
Mandelson englué dans l'affaire
Mandelson, Epstein. Mandelson, oui, dans l'affaire Epstein. Donc voilà, effectivement, on a vu que Keir Starmer est en difficulté. Il est un peu mal aimé, il baisse dans les sondages. Donc bon, à surveiller parce qu'au-delà...
C'est l'avenir de Keir Starmer qui se joue peut-être à travers ces élections,
en fait,
si je comprends bien.
Au-delà de ces élections, regardons bien Keir Starmer parce que s'il est désavoué, ça pourrait donner encore moins de poids au Royaume-Uni et à la marine britannique, notamment, qui a démontré une certaine faiblesse. Toi aussi, tu restes en Europe, hein ?
Oui, je reste en Europe. Moi, ce que je surveille cette semaine, c'est les premiers pas de Peter Magyar, le nouveau Premier ministre hongrois qui a réussi à battre l'inamovible
Viktor Orban.
Voilà, Peter Magyar, là, qui doit être investi ce week-end avec son nouveau gouvernement. Très symboliquement, c'est une investiture qui a lieu le 9 mai. C'est la date de la journée de l'Europe.
Ah oui,
c'est intéressant parce que, déjà, au niveau du temps, Peter Magyar, là, il cherchait à se faire investir au plus vite. Pourquoi ? Un, pour lever au plus vite les sanctions européennes qui frappaient la Hongrie sous l'ère Orban, et deux, pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de destruction de preuves par les membres du gouvernement Orban sortant. Et il y a quand même un contexte très particulier dans cette période de transition juste avant cette investiture de Peter Magyar. On voit notamment une hémorragie des oligarques qui ont beaucoup profité, hongrois, qui ont profiter de la politique de Orban, et qui font leur bagage et qui sont en train de fuir la Hongrie. Ils sont pour beaucoup partis vers l'Uruguay et les États-Unis. Hein. Faut se rappeler que Orban, c'est vraiment presque un mentor pour Donald Trump, hein. un modèle pour Donald Trump. Ils s'entendent très bien. Et donc, faut regarder dans les premiers pas de Peter Magyar si on va assister à une purge post-Orban. Hein. Ça va être intéressant à suivre.
Mais on va surveiller alors son intronisation.
Ouais.
À Budapest. Nous, on termine ici pour cette semaine, mais on se retrouve...
Cet ordre du monde...
Non, pas la semaine prochaine.
Non, voilà, dans deux semaines, on sera très content de vous retrouver. Laissez-nous tous vos commentaires, bien sûr. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur nos plateformes de BFM Business, à nous regarder sur YouTube, à nous écouter, continuer et surtout... relayez vos questions, vos envies. On vous promet avec Annalisa, on décortique ça et on essaye d'apporter quelques éléments d'éclairage.
Voilà, bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve alors dans deux semaines, on fait une petite pause, mais dans deux semaines, on sera de retour avec l'Ordre du Monde.
Salut Annalisa, salut à tous.